me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Comment les filières au sein du bac S et dans les classes préparatoires scientifiques dessinent-elles une hiérarchie scolaire, scientifique et sociale? Quel est le recrutement des classes préparatoires? Quelle est la valeur de la mention au bac? Est-elle une condition nécessaire? Qu'est-ce qui peut relier l'université aux classes prépa et aux grandes écoles et à la recherche? Et du point de vue de la carrière académique, qu'est-ce qui arrive aux individus après 50 ans? Quels sont les avantages en termes de parcours professionnel? Pierre-Michel Minger, directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, poursuit ce matin, dans le cadre de sa série sur la production du savoir, son exploration des mécanismes de sélection des étudiants dans le secondaire avant leur entrée en classe préparatoire. Il nous fait observer le parcours des bacheliers. Que sont-ils devenus? Quel rôle jouent les performances scolaires et la sélection sociale? Il souligne que l'accès, et je le cite, au bac S se situe au terme d'une première trajectoire cumulative des inégalités de chance dans la carrière scolaire d'un élève. Le vaisseau amiral des classes préparatoires en termes d'effectifs et de sélectivité des conditions d'entrée sont les filières scientifiques. Cependant, les évolutions récentes, comme le succès grandissant des IUT, mettent en évidence les jeux stratégiques des étudiants qui jouent avec les niveaux de formation et les types de formation sélective. Pour son exposé de ce matin, à côté des grandes enquêtes citées, le sociologue présente également des données originales issues des recherches en cours au sein de son équipe du Collège de France sur les carrières et les établissements universitaires français. Pierre-Michel Minger revient en deuxième partie sur les deux dualismes de la stratification à la française. Il rappelle que le système français s'appuie sur trois piliers, profondément et totalement solidaires. L'université au centre, les classes préparatoires et les grandes écoles d'un côté et les instituts de recherche de l'autre. Le double dualisme, c'est le dualisme université, filières sélectives courtes ou longues, et aussi le dualisme université, établissement de recherche. Le sociologue différencie les trois états de la sélectivité et de la stratification. Au niveau de la recherche, les carrières sont monotâches, avec une sélection professionnelle et un élitisme. Il distingue ensuite l'enseignement avec les filières sélectives et enfin le genre mixte avec l'université et la sélectivité endogène. Pourquoi dès lors les différences statutaires permettent-elles de gérer la stratification professionnelle au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche en France? Nous découvrirons toutes ces questions ce matin et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Pierre-Michel Minger sur la production du savoir, carrière, disciplines et organisations, le 5 février 2016.
Aujourd'hui, je vais terminer cette exploration concernant les mécanismes de sélection des étudiants dans le secondaire qui ensuite sont propulsés vers les classes préparatoires, vers les grandes écoles, par un une même approche en termes de resserrement de la focale. Ensuite, je vais vous dire en quoi ce dualisme université-grandes écoles est absolument solidaire de l'autre, qui est séparation ou non entre recherche et enseignement supérieur, qui est un mécanisme français de fabrication, de production, de la stratification des établissements et de la valeur respective des tâches d'enseignement et de recherche dans la production et la transmission de la connaissance. Le mécanisme général, c'est un mécanisme de cumulativité des sélections à travers l'enseignement secondaire, et notamment pour conduire au baccalauréat qui a la valeur la plus élevée, c'est-à-dire le baccalauréat scientifique, celui qui nous produit dans les grandes écoles ce dont nous sommes extrêmement fiers en France, c'est-à-dire de brillants mathématiciens, physiciens, qu'on nous envie à l'extérieur, mais qui sont effectivement la fine pointe d'un mécanisme cumulatif. Alors, voilà l'annonce de ce que je vais vous montrer, et maintenant j'entre dans les détails. Voilà les données qui concernent le sort des étudiants qui ont obtenu une mention très bien ou bien, ceux qui ont obtenu une mention assez bien, et ceux qui n'ont pas obtenu une mention du tout. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Et à nouveau, les données sont extrêmement intéressantes parce que ce sont des données de panel. Donc on suit les étudiants, les mêmes, du début à la fin de leur scolarité, et on ne recompose pas les effectifs en fonction de ce qu'on veut observer. C'est le meilleur outil qu'on connaisse pour faire une analyse longitudinale des trajectoires, évidemment, et pour analyser des mécanismes de... en quelque sorte, de répartition des individus sur les différentes voies, filières, orientations plus ou moins sélectives qu'elles connaissent. Alors, les données concernent trois panels successifs. Les étudiants qui sont entrés en 89 et qui ont obtenu leur baccalauréat en 96, ceux qui sont entrés en 95 et qui ont obtenu leur baccalauréat en 2002, et ceux qui sont entrés en 2002 et qui ont obtenu leur baccalauréat en 2008 ou 2001 et 2008. Et on observe donc les parcours. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Avec une mention bien ou très bien, ceux qui sont devenus bacheliers en 96 ont obtenu sont entrés dans une classe préparatoire à 51%, mais l'effectif diminue. 46 pour ceux qui sont bacheliers en 2002 et 39% pour ceux qui sont bacheliers en 2008. Mais il faut aussi regarder d'autres filières sélectives. Il y en a une autre dont les effectifs sont intéressants. C'est celle des premières années de médecine ou de pharmacie, qui sont typiquement des filières avec admission large, mais ensuite sélection à la deuxième année. 9, 11, 16. Donc, ce sont des effectifs qui évoluent à l'inverse. Les autres filières sélectives sont plutôt résiduelles pour ces mentions-là, mais néanmoins, on observe par exemple que les IUT, qui sont une filière sélective courte, augmentent leur poids de 2 à 5%. Ça n'est pas considérable, mais c'est tout de même un indicateur intéressant. Alors, pourquoi donc les classes préparatoires perdent en attractivité dans cette population de bacheliers qui ont les meilleures chances d'aller vers les filières les plus sélectives. Voilà un petit rébus. En fait, la moitié des bacheliers obtiennent leur baccalauréat avec une mention, contre un tiers il y a 6 ans. Et donc la part de ces lauréats avec mention bien ou très bien double. Et de ce fait, le poids de leur inscription dans les classes préparatoires diminue. Ils sont plus nombreux. Les classes préparatoires continuent à être des univers à entrée restrictive. Leurs effectifs n'ont pas augmenté. On pourrait supposer une augmentation coordonnée des bacheliers distingués et des places dans les classes préparatoires et ensuite dans les grandes écoles. Eh bien non. Les portes restent étroitement surveillées pour l'entrée dans les classes préparatoires. Et on en a une preuve, donc les effectifs se déversent en quelque sorte, des bacheliers qui ont été distingués se reportent sur d'autres filières essentiellement sélectives. Donc c'est un point important, ils ne se reportent pas sur les filières non sélectives Les universités ont entièrement augmenté leurs effectifs, mais c'est entièrement dû à la contribution des formations universitaires en médecine. Alors que dans les licences, les bacheliers qui ont les meilleurs atouts n'ont pas fréquenté davantage l'université. Et ça s'observe aussi pour ceux qui ont une mention assez bien et pas de mention également. L'université voit en quelque sorte ses effectifs se restreindre et une partie des bacheliers s'orienter vers des voies soit sélectives, soit de formation alternative au parcours classique des universités. Je l'avais déjà dit, mais en voilà une confirmation, et elle vaut à tous les niveaux, et elle vaut évidemment a fortiori au niveau le plus élevé. Alors maintenant, on peut prendre le problème néanmoins dans l'autre sens. Les étudiants qui vont dans les classes préparatoires ou dans les filières de médecine sont beaucoup plus qu'avant. Pardon, ce sont des lauréats de mention bien ou très bien, à 62% parmi les bacheliers de 2008, alors qu'ils étaient 39% parmi les bacheliers de 2002. Donc vous voyez que la mention est devenue, en même temps qu'elle elle se diffuse davantage, ce signalement de la qualité des bacheliers, en même temps qu'il se diffuse davantage, c'est devenu aussi, et donc, comme les places n'augmentent pas, mais néanmoins, la valeur conditionnelle de cette mention est de plus en plus élevée. C'est devenu, pour les deux tiers, une condition nécessaire, pas tout à fait suffisante, comme on l'a vu, puisque les places n'augmentent pas davantage, mais une condition nécessaire pour entrer dans ces filières, et ça vaut pour les filières les plus sélectives, mais la médecine également, et ces parcours dans les écoles, c'est tout à fait frappant. Alors, voilà la fin du parcours avec la focale la plus large qui concernait les bacheliers généraux. Et maintenant, nous allons examiner une partie de cette population de bacheliers qui sont les bacheliers scientifiques. Et je vais procéder à une analyse en réplique resserrée de ce qui a été établi sur le baccalauréat général. Il y a une croissance des effectifs dans le baccalauréat scientifique. C'est devenu le baccalauréat majoritaire en termes d'effectifs. Et néanmoins, il y a aussi un déversement de ces bacheliers vers diverses filières sélectives. Le point général, c'est que cet accès au baccalauréat, encore une fois, se situe au terme de ce que j'ai appelé cette trajectoire cumulative des inégalités de chance dans la carrière scolaire des élèves. Un accès au baccalauréat S contient davantage que le baccalauréat général et de très loin plus que l'accès au baccalauréat en général, pas le baccalauréat général, toute filière confondue. Toute cette endogénéité de la sélection qui est fondée sur la performance scolaire et sur ses différents déterminants. Voilà l'idée. Donc, on peut dire que à travers le type de baccalauréat, plus on isole une élite académique, en quelque sorte, plus on voit que les inégalités résistent à la réduction. Maintenant, c'est sur ce baccalauréat-là que je me concentre. C'est celui qu'ont obtenu 52% des bacheliers généraux. Pour moi, c'est un terrain d'observation idéal pour identifier des stratégies d'orientation qui procurent le rendement le plus élevé en fonction des performances scolaires. Voilà comment se distribuent les individus bacheliers en 2014, donc ce sont les données les plus récentes, en fonction de la nature de leur baccalauréat. Où sont-ils allés? Avec un baccalauréat général, voilà ce que vous faites. Et là-dedans sont inclus les formations en médecine dont j'ai déjà parlé. L'université capte l'essentiel des diplômés. On a 13% d'individus qui vont en classe préparatoire. Avec un baccalauréat S, l'université perd un peu de représentativité, mais ce sont essentiellement les filières sélectives des classes préparatoires qui gagnent en effectif. Et avec un baccalauréat professionnel, vous n'allez essentiellement que en STS. Ce sont des filières professionnalisantes courtes et un tout petit peu dans l'université. Le parcours, vous n'avez que 40% des, moins de 40%, 35% des bacheliers professionnels qui continueront leur scolarité dans le supérieur. Tandis qu'en S, vous avez plus de 100% parce qu'il y a les doubles inscriptions. Ça, ce sont les premières données simples. Maintenant, on va zoomer sur ces bacheliers S pour savoir ce qu'ils font. Et à nouveau, je dispose des trois panels successifs. Bachelier 96, donc entré quelques années avant en sixième, etc. Bachelier 2002, bachelier 2008. Et donc, ceux qui vont vers les licences diminuent considérablement. Ils passent de 35 à 21% quand ils sont titulaires d'un baccalauréat S. Le baccalauréat S ne fait qu'amplifier des mécanismes généraux. Les IUT sont stables. Ils constituent, pour un cinquième des bacheliers, ils constituent une option professionnalisante. Mais quand on va regarder dans le détail, les IUT et les STS, pardon, mais c'est principalement les IUT dans cette catégorie de bacheliers, quand on va regarder dans le détail, on voit en même temps que les IUT ont une fonction qui évolue. Les IUT auparavant étaient des filières professionnalisantes complètes. Les étudiants au début et jusque dans les années 80, 90, les étudiants sont entrés dans ces filières, étaient diplômés et puis allaient sur le marché du travail. Maintenant, dans ces générations récentes, ils entament une formation en IUT, puis continuent dans l'université. Autrement dit, ils s'inventent un parcours à eux pour bénéficier des mécanismes de sélectivité et des avantages de la technologie pédagogique attachée à des filières sélectives, avec un taux d'encadrement plus élevé, etc., par les professeurs. Et ensuite, ils rejoignent les filières universitaires classiques une fois qu'ils ont bénéficié de ce démarrage. C'est beaucoup plus fréquent aujourd'hui. Donc, ça fait partie de tous ces jeux stratégiques qui jouent avec les niveaux de formation et en même temps les types de formation sélectives ou non. Les bacheliers S qui vont en filière de classe préparatoire, à nouveau les données sont stables et c'est des effets de contrainte de place. Vous verrez plus tard le nombre d'étudiants qui sont admis dans les classes préparatoires évolue à travers d'autres mécanismes de recrutement des étudiants qui ne passent pas par les classes préparatoires, mais par des filières parallèles. Mais quand on passe par les classes préparatoires proprement dites, eh bien, le nombre et la proportion de bacheliers S, L, ne change pas beaucoup. En revanche, comme je l'ai déjà montré, c'est une alternative à la filière scientifique aux classes préparatoires, qui sont majoritairement scientifiques. Il y a une alternative, c'est la médecine. Ce qui dit d'ailleurs un certain nombre de choses importantes sur l'évolution des métiers et la part que prennent les études médicales, scientifiques médicales, ou pharmaceutiques, ou pharmacologiques, dans l'agenda des familles et des individus, et à faveur de la transformation à la fois des métiers, de la montée du tertiaire et des besoins qui sont aujourd'hui observés, évidemment, sur le marché du travail, du côté de ces métiers-là. Et ça ne va pas s'arrêter. L'allongement de la vie, la qualité de vie, etc. sont des inducteurs évidemment très importants de transformation des choix d'orientation des étudiants. Donc, on a bien ici le mécanisme que je décrivais. Maintenant, je vais regarder en zoomant à nouveau, en resserrant ma focale, une fois de plus. Je prends donc uniquement mes bacheliers S. Et je leur attribue la mention qu'ils ont obtenue au baccalauréat. Cette fois-ci, elle est décomposée non plus en bien ou très bien, mais en très bien, bien, assez bien, pas de mention. Et l'énergie de sélection cumulative, elle est contenue dans ces données-là. On est donc sur les bacheliers S premièrement. On regarde ceux qui ont la mention très bien. Ils vont en classe préparatoire à 54%. Et en médecine à 23%. Autrement dit, les trois quarts, plus des trois quarts, sont dans ces filières-là avec ce genre de mention. Les scores ne sont plus que de 2/3 pour ceux qui ont la mention bien. Et là, vous voyez la chute considérable des proportions. On est à 36% pour ceux qui ont la mention assez bien et qui vont tenter leur chance dans ces filières sélectives. La médecine étant, comme je l'ai dit, une filière dont l'énergie sélective se révèle à la deuxième année et pas la première année. Donc une partie de ceux qui sont là vont se redistribuer ensuite. Et ceux qui n'ont pas de mention se sont déjà auto-sélectionnés pour ne pas quasiment pas tenter leur chance dans les classes préparatoires. Ce sont des données qui sont extraordinairement robustes dans le temps. Et donc ce sont des vrais mécanismes structurants. Donc maintenant je vais m'intéresser au recrutement dans les classes préparatoires proprement dites, qui sont de plusieurs espèces. Ici vous avez une représentation des trois types de classes préparatoires. Ce sont d'une part les classes scientifiques et puis vous avez les classes littéraires. Voilà la distribution, elle est assez stable dans le temps. Ici elle va jusqu'de 75 à 2002. Vous voyez que la part des classes scientifiques a un peu diminué, mais essentiellement au bénéfice des classes préparatoires aux écoles de commerce, qui sont la filière qui a vu sa part augmenter le plus. Elle est passée de 12 à 20%. Et les classes préparatoires littéraires sont plutôt en récession dans cette période-là. Ce sont des filières qui étaient à près de 20% et qui maintenant sont à 16% et un peu moins. J'ai compilé les données sur les périodes plus récentes, de 2005 à 2014. La distribution est très stable. Il y a une légère remontée des filières littéraires, mais on n'est jamais au-dessus de... Maintenant, on est autour de 15%, guère plus. Ce sont toujours les classes des écoles commerciales et leurs classes préparatoires qui ont porté la dynamique de transformation de ces filières. La filière scientifique a une proportion extrêmement stable. D'où viennent les étudiants qui sont dans ces différentes filières? Eh bien, quand on regarde on analyse les filières scientifiques, économiques et commerciales et littéraires, on voit que les baccalauréats S sont à 96% en filières scientifiques, pour moitié en business school, enfin dans les filières économiques et commerciales, et plus que pour moins d'un quart en filières littéraires. Donc, les gros effectifs sont là. Vous avez en même temps les effectifs. 21 000 bacheliers S sont en filière scientifique, 1 500 en filière littéraire, et la part générale des filières dans les différentes classes préparatoires en termes de baccalauréat, 22 000, 9 000 et 6 000. Donc, le vaisseau amiral des classes préparatoires en termes d'effectifs et en termes de sélectivité des conditions d'entrée, ce sont les filières scientifiques. Alors, j'ai parlé des performances scolaires. Maintenant, il faut regarder, comme toujours dans mon exposé, la contribution de la sélection sociale dans ces classes préparatoires. C'est emprunté au travail de Baudelot et de son équipe qui était un bilan sur 25 ans d'évolution des classes préparatoires qui est paru en 2003. Mais les données sont stables dans le temps. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Alors, filles et garçons, les données se ressemblent. Il y a des écarts, mais en gros, la distribution selon les trois filières, elle a les mêmes propriétés. Elle est néanmoins dans les filières économiques et commerciales, le recrutement est beaucoup plus encore du côté des cadres supérieurs. Que des enseignants qui sont minoritaires, enfin qui sont sous-représentés par rapport aux autres filières ici, alors que dans les filières littéraires, les enseignants sont sur-représentés par rapport à leur poids dans l'ensemble. Ils sont même, pour les garçons, beaucoup mieux représentés encore. Les garçons fils d'enseignants sont pour un cinquième. Donc vous voyez, il y a classe préparatoire et classe préparatoire selon l'origine des individus. Un des chercheurs de l'équipe, c'est Yann Renizio, a fait un travail sur les étudiants en général Et il a pris des données de 2007 à 2011 et il a examiné les origines sociales des étudiants en fonction de leur discipline d'études dans l'enseignement supérieur. Et après avoir écarté un certain nombre de filières non diplômantes, il obtient une distribution représentant les données de cette manière. Ici en bas, vous avez le taux d'enfants d'ingénieurs. Ils sont extraits de cette partie-là, en quelque sorte, des classes, des milieux supérieurs. Et ici, vous avez les enfants, les élèves, les étudiants fils d'enseignants, de professeurs. Les données sont très éloquentes. Les philosophes, notamment, les filières littéraires, donc si je reprends ma nomenclature, les philosophes qui sont le vaisseau amiral des filières littéraires en termes de recrutement social, c'est dans d'autres travaux que ça sort bien, sont beaucoup plus liés au milieu enseignant. Les matheux aussi, mais ils sont déjà plus proches du pôle ingénieur. Les filières droit-gestion sont ici, dans la distribution. Donc, évidemment, comme on l'a vu, les milieux d'ingénieurs sont plus présents. Les étudiants en sociologie sont là. Donc, ils n'intéressent pas beaucoup les fils d'ingénieurs, mais ils intéressent davantage les enfants de professeurs. Vous avez cette distribution, cette représentation est vraiment intéressante. C'est paru dans un article tout récent consacré aux disciplines dans Actes de la recherche en sciences sociales. Et donc, vous avez cette distribution représente en quelque sorte une des manières d'identifier la dimension sociale des choix scientifiques ou des disciplines d'orientation dans les études supérieures. Et c'est cohérent avec les données que je vous ai présentées tout à l'heure sur les classes préparatoires. Maintenant, encore une fois, on peut aller encore un peu plus loin dans l'exercice de décomposition. Comme je l'ai déjà dit, la science sociale, c'est décomposition, 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 avant d'identifier des mécanismes et de réagréger les données une fois qu'on a neutralisé tous les biais possibles à travers ces exercices de décomposition. Et ça n'est pas l'apanage des seules sciences sociales, c'est l'apanage des sciences en général. Est-ce que cette situation a évolué dans le temps? C'est toujours évidemment l'objectif d'une recherche. Elle a été beaucoup examinée. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans le temps, autrement dit un desserrement de la sélectivité? Je l'ai déjà mentionné pour le baccalauréat scientifique en général. Mais regardons ce qui se passe. Ici, nous avons des données qui concernent une période assez courte, 96-2002. Un autre travail a été fait qui est très complet de Albouy et Vanek, qui porte sur plusieurs décennies, qui conclut à une très faible diminution des inégalités et sur certains plans à une stabilité. Sur une période assez restreinte, je vous présente simplement ces données. Ici, c'est pour les filières scientifiques des classes préparatoires. Vous voyez la distribution des effectifs, les courbes sont très plates. Il n'y a aucune surprise. Évidemment, avec ce niveau, cette intensité de sélectivité, vous ne pouvez pas obtenir de grands changements sur une période de ce type. Mais c'est pour vous donner l'étagement des situations. On a la représentation pour les trois filières. Pour les filières économiques, la part des milieux supérieurs est plus élevée et elle se maintient. La part des milieux enseignants est la plus faible des trois filières et elle est stable. Et c'est pour les filières littéraires que les enseignants se situent plus haut que les milieux populaires. Ils sont à 16% ici. Et il y a des fluctuations ici pour les filières littéraires, mais qui retrouvent en fin de période leur niveau du début de période. Donc il y a un peu plus de mouvement là. Ce sont des filières qui sont plus complexes. Les filières littéraires sont celles qui procurent le moins de chances d'aboutir complètement, une fois qu'on est entré dans une classe préparatoire, à une réussite des études complètes. Donc il y a évidemment à méditer sur les stratégies à adopter dans l'entrée à ces filières littéraires. Ce qui apparaît ici à travers, quand on isole la catégorie des enseignants, réapparaît dans ce tableau-là, qui est extrait du travail de Albouy et Vanek que j'ai cité. C'est la situation, la probabilité d'intégrer une grande ou une très grande école, on a même fait une distinction entre les deux, qui est très importante, vous le comprendrez plus tard, en fonction de la catégorie sociale du père de l'enquêté pour la génération des étudiants nés entre 59 et 68. Ils ont calculé les chances en fonction des origines sociales à travers un modèle qui neutralise les effets des autres variables possibles. Et vous voyez que ceux qui détiennent les chances les plus élevées, ce sont les enfants des milieux enseignants, professeurs et professions scientifiques. Cette fois-ci, ils ont distingué les deux catégories, professeurs et instituteurs. Le score est beaucoup plus élevé pour les professeurs et les professions scientifiques, qui captent le secondaire, le supérieur. Et ça, ce sont les instituteurs, les enseignants du primaire. Le score des chances sont de 13% à 21% ici. Donc, mais c'est plus élevé que les cadres supérieurs et les ingénieurs, qui sont à 20%, à près de 21%. Et que les professions libérales, qui sont aussi à 21%, mais ceux qui détiennent la palme, ce sont bien ces catégories-là. Et donc, les écarts sont considérables. Quand vous vous situez dans les milieux populaires, vous êtes sur des scores de 1 à 1,5%. Quand vous êtes dans les milieux intermédiaires, vous ne dépassez jamais 6%, sauf cette catégorie un peu étonnante qui est le clergé. Donc c'est la contribution nette de tout le clergé non célibataire à la propulsion de ces enfants vers les filières sélectives rentables. On pourrait dire que c'est une application de la théorie weberienne de la réussite par la grâce et l'élection, le choix des signes d'élection, mais les familles sont derrière. mais néanmoins, le score est le score de ce groupe. L'écart entre ce groupe, le milieu supérieur, et les autres est vraiment impressionnant en termes de chance. Et le poids donc du capital scolaire est vraiment est omniprésent. Je voudrais vous donner une citation de Christian Baudelot qui donne une assez bonne idée, qui résume assez bien le travail que j'ai voulu faire et qui s'appuie en partie sur certaines des données qu'il a exploitées, mais aussi sur beaucoup d'autres. Les futurs élèves de classe préparatoire se recrutent d'abord parmi les meilleurs élèves de leur génération, 3 sur 4, et ça sera le résumé de la séance et demie que j'ai réalisée. 3 sur 4 avaient ainsi obtenu au test d'évaluation organisé au début de la 6e des résultats qui les plaçaient parmi les 25% d'élèves les plus brillants. Par contre, seulement 4% des élèves du 3e quartile, c'est-à-dire le quartile qui est juste en dessous quand on répartit les étudiants en niveau de performance par bloc de 25%, le quartile supérieur, c'est le 4e, le quartile juste en dessous, c'est le 3e, etc. Donc, par contre, 4% des élèves du 3e quartile, 1% de ceux du 2e et 0,2% de ceux du quartile inférieur sont entrés en classe préparatoire. C'était l'argument que j'ai déjà évoqué. Il n'y a à peu près pas de parcours atypique du genre du réveil, du génie sommeillant d'un étudiant. Ce sont des cas tout à fait exceptionnels qui alimente la chronique de l'apesanteur sociale, mais qui n'existe que de manière tout à fait marginale. Les seuls étudiants qui sont exceptionnellement bons, mais désordonnés et qui peuvent avoir éventuellement des résultats scolaires chaotiques, ce sont probablement des surdoués. On sait que les surdoués se sentent mal dans les études et peuvent avoir des résultats qui varient de manière imprévisible. Mais c'est une catégorie vraiment statistiquement tout à fait résiduelle. Mais tous les élèves, alors ensuite, on a donc vu que dans le quartile supérieur, les chances sont meilleures, mais ensuite, tous les élèves du quartile supérieur n'ont pas la même probabilité d'accéder en classe préparatoire. Parmi eux, et on ajoute donc le filtre, ceux dont les parents sont enseignants ou cadres supérieurs iront quatre fois plus souvent en classe préparatoire que ceux de milieu populaire. Et si on prend l'ensemble des élèves de 6e, la proportion est de 1 sur 10, 1 à 10. Et au total, 20% des élèves de 6e issus d'un milieu enseignant, 16% issus du milieu supérieur, intégreront une classe préparatoire contre seulement 4% des élèves de milieu intermédiaire et 1,5% de ceux issus des milieux populaires. Alors que ces derniers représentaient au départ 45% des élèves de 6e. Donc vous voyez la situation.
Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre-Michel Minger, la production du savoir, carrières, disciplines et organisations.
Et bien maintenant, donc, j'ai achevé cette exploration de resserrement de focale sur la production d'une certaine catégorie d'étudiants qui sont ceux qui vont entrer dans l'une des composantes du système d'enseignement supérieur, qui sont les classes préparatoires. Maintenant, je voudrais dire pourquoi je m'intéresse à cette catégorie-là particulièrement. Vous avez vu qu'il y a peu de surprises. Encore faut-il le démontrer et l'établir complètement. En fait, c'est parce que je voudrais montrer que l'organisation du système français, celui que j'étudie cette année, alors que j'ai étudié beaucoup celui de pays étrangers l'année dernière, l'organisation du système français s'appuie sur trois piliers qui sont profondément et totalement solidaires structuralement. Ces trois piliers, c'est l'université au centre, les classes préparatoires et les grandes écoles sur un côté, et la recherche, des instituts de recherche sur le flanc droit, mettons, dans cette représentation-là. Et c'est ce que j'ai appelé, comme d'autres, le double dualisme. Dualisme université-filière sélective courte ou longue et le dualisme université-établissement de recherche. Et donc, quel est l'argument qui permet de les relier ? Voilà l'argument. Il y a trois catégories de tâches ou d'associations de tâches dans le travail des personnels qui sont à la manœuvre dans ces filières universitaires, recherche et classes préparatoires et grandes écoles. Ces trois catégories de tâches sont, ou d'associations de tâches, sont enseignement uniquement, ou ce qu'on appelle en anglais « teaching only », teaching and research, c'est-à-dire on enseigne et on fait de la recherche, et research only, on fait que de la recherche. Alors, pour prendre la troisième, research only en France, c'est le CNRS et les grands établissements, les EPST, les établissements d'enseignement supérieur qui font de la recherche scientifique, l'INRIA, l'INSERM et quelques autres. Ils constituent l'élite, statutairement, de la partie recherche de la production scientifique, et je vais montrer qu'ils en tirent un certain nombre d'avantages, notamment en termes de carrière. Pour le dire tout de suite, quand vous êtes chercheur au CNRS, après 50 ans, 71% des personnels sont directeurs de recherche. Quand vous êtes dans l'université, après 50 ans, il n'y a que 50% des maîtres de conférences qui sont passés professeurs. Donc, on peut dire qu'il y a là un avantage net à exercer la fonction de chercheur qui peut être relié au fait qu'on a cherché à écrémer dans l'ensemble des candidats potentiels à la carrière académique, donc de production scientifique, on a voulu écrémer ceux qui disposent des meilleurs atouts pour n'accomplir que la tâche la plus prestigieuse ou génératrice des plus grands bénéfices professionnels, c'est-à-dire la tâche de recherche. Et en ce sens-là, le CNRS, en quelque sorte, prend et crème dans l'ensemble des candidats la qualité qui l'intéresse. Et il lui procure des avantages professionnels non négligeables. L'autre, la catégorie strictement symétrique, c'est « teaching only », c'est-à-dire « je ne fais qu'enseigner ». Ça, c'est une catégorie dont on ne parle quasiment jamais, parce qu'on ne s'intéresse pas beaucoup au travail des universitaires et des académiques, au sens anglo-saxon du mot académique. On ne s'y intéresse pas beaucoup en dehors de du dualisme université et filière de recherche. Or, si on regarde comment travaillent les personnels dans les filières sélectives courtes ou longues, eh bien, ce sont essentiellement des personnels dans les classes préparatoires qui travaillent, ou dans les filières comme les IUT, qui travaillent en monotâche, en teaching only. Ils ne font que ça. Un des grands débats aujourd'hui dans les transformations du système universitaire à l'échelle mondiale, c'est jusqu'à quel point faut-il spécialiser ou non des fonctions. J'en ai beaucoup parlé l'année dernière, mais je voudrais en redire un mot. Jusqu'à quel point faut-il spécialiser ou non des fonctions de recherche pure, d'enseignement pur, ou jusqu'à quel point faut-il maintenir la liaison fonctionnelle entre les deux tâches ? Pas de bon enseignement sans bonne recherche. Bon. En fait, quand on regarde le système français, on voit qu'on a bien une spécialisation fonctionnelle sur les trois segments dont je parle. Recherche uniquement, enseignement uniquement et association enseignement-recherche avec un effet de pénalisation professionnelle pour ceux qui s'engagent au centre dans le genre mixte. Et mon idée en décomposant le système de cette manière, c'est de dire que les deux genres non mixtes, c'est-à-dire recherche uniquement et enseignement uniquement, sont des genres qui sont éminemment sélectifs. Les établissements de recherche veulent sélectionner la meilleure qualité de chercheurs. Qualité, c'est un terme sur lequel je reviendrai. Ça n'est pas un indice de jugement sur les personnes. C'est une simple manière de dire de quelles caractéristiques ai-je besoin pour obtenir le résultat que je cherche. Donc, c'est un indice d'évaluation dans un contexte donné qui est posé sur les caractéristiques des individus. Ça n'est pas un jugement, évidemment, sur les personnes. Loin de là. Et c'est un vocabulaire de répartition ordinale, comme on dit, c'est-à-dire par rang dans un système stratifié. Et les établissements de recherche sont sélectifs au sens où ils disposent d'un nombre limité de places et font jouer des concours d'entrée dont ils espèrent que ceux qui en sont les vainqueurs sont meilleurs et plus productifs sur la partie recherche que ceux qui vont aller à l'université et qui se taperont les deux travaux, les deux missions, enseignement et recherche, qui ne pourront donc pas, consacrer plus de 50% officiellement de leur temps à la fonction recherche, alors que c'est statutairement 100% dans la fonction, dans les carrières de chercheurs. Et du côté « teaching only », on ne trouve principalement ces enseignants qui ne font que de l'enseignement, on ne les trouve que dans des filières sélectives, où ils sont très fortement surreprésentés. C'est quand même extrêmement intéressant de savoir que pour avoir une technologie éducative dans des filières extrêmement sélectives, on ne veut pas d'un genre mixte où les personnels feraient recherche et enseignement. On veut d'abord des enseignants qui font surtout de l'enseignement et rien d'autre statutairement. Donc, la sélectivité est accouplée à la spécialisation sur les deux flancs. Et le troisième genre, c'est le genre mixte, c'est-à-dire l'université, elle a des propriétés exactement inverses, puisqu'elle elle s'honore de n'être pas sélective à l'entrée, et que par ailleurs, elle demande à ses personnels d'opérer sur les deux segments, enseignement et recherche, et de les associer. Le problème pour les personnels, c'est que la carrière dans l'enseignement supérieur, elle est essentiellement arrimée à des performances de recherche, et pour ça, évidemment, le temps et l'énergie disponible est moindre que dans des activités spécialisées de recherche pure. Et si on les met en comparaison les uns avec les autres, c'est-à-dire quelle est la productivité de recherche d'un enseignant du supérieur par rapport à un chercheur pur, eh bien les chiffres sont implacables. Jacques Mérès l'a montré pour les physiciens dans un article paru dans la Revue économique l'année dernière, d'un numéro qu'on dirigeait ensemble. Il l'a montré pour donc les physiciens. Il a comparé la production des physiciens au CNRS et à l'université. Eh bien, le rapport est de 2 pour 1. Point final. Donc, l'affaire est nette, ce qui est sans jugement, en moyenne, sans jugement sur la qualité intrinsèque des individus. C'est une composition entre quel est le type de personnel que je suis capable de recruter dans la recherche. Évidemment, comme la carrière est plus attractive, je vais avoir de meilleurs arguments pour attirer ceux qui s'estiment les meilleurs pour se lancer dans la procédure de concours pour être admis. Et donc, moi, institut de recherche, je vais tâcher de les retenir. Et deuxièmement, je leur donne 2 fois plus de temps pour faire leur travail. Donc, par composition, vous obtenez un résultat qui est à peu près conforme à ce qu'on recherche. On sélectionne et on obtient ça. Et ce genre-là, il est, comme je l'ai dit la dernière fois, le genre mixte université. Par ailleurs, lui-même est soumis à des tensions internes assez fortes, puisqu'il engendre en son sein propre de multiples solutions de sélection par double filière, double licence, sélection à un certain niveau, au master, qui a fait beaucoup parler de lui, ou au master 2, etc., etc. Alors, il y a un quatrième genre qui est enseignement, recherche et sélectivité des étudiants. Donc, des propriétés qui ne sont pas associées dans les autres. Ce genre-là, c'est les grandes écoles elles-mêmes. Et je ne vais pas les discuter directement pour l'instant. Une fois sélectionnés, ces chercheurs bénéficient d'une spécialisation dans une activité, la recherche, qui est prestigieuse, et ils accomplissent donc cette activité à un coût qui est moitié moindre que celui des universitaires, puisque tout leur temps peut lui être consacré. Ou, pour le dire autrement, l'investissement réalisé par le financeur, c'est-à-dire l'État, pour obtenir une production de recherche est 2 fois supérieur en quantité d'heures de travail rémunéré à celui réalisé pour obtenir le même effort de recherche du côté universitaire. Je ne fais ici qu'une comptabilité élémentaire en termes d'heures statutaires de travail. Je ne parle pas des environnements de travail, etc. Il se trouve que nous ne disposons pas de données sur l'ensemble des carrières des personnels des EPST, des établissements de recherche, qui permettraient de procéder à des comparaisons avec les carrières des universitaires et de vérifier dans le détail l'amplitude des écarts de productivité qui est imputable à une structure monotâche ou multitâche dans l'emploi académique. On en trouve des indices partiels dans certaines publications récentes comme celle de Jacques Mérès et de Michele Pezzoni, je vous y renvoie, dans la Revue économique, et qui montrent donc que les écarts de productivité sont de 1 à 2, mais ça vaudrait la peine évidemment de généraliser la recherche à l'ensemble des disciplines pour vérifier si ce type d'écart de productivité est constant ou modulé en fonction de caractéristiques propres aux disciplines et aux environnements scientifiques. Quand les individus et leurs organisations, c'est-à-dire ici les universités, ont plusieurs missions, donc à l'inverse des instituts de recherche, on peut identifier directement comment ces missions sont hiérarchisées. L'activité de recherche est porteuse de l'essentiel du prestige et de la réputation des établissements universitaires, je l'ai souligné l'an dernier, et elle est génératrice des gains professionnels individuels majeurs. Autrement dit, quand on veut passer de maître de conférence à professeur, c'est d'abord la réussite dans l'activité de recherche qui est prise en compte, avant toutes les autres considérations. Alors, je n'ai pas de données détaillées sur les établissements de recherche, mais on a des données sur les enseignants du supérieur. Grâce à un important travail qu'on est en train de réaliser avec mon équipe, ce que j'appelle ici l'équipe STC, Sociologie du Travail Créateur, et nous avons des données sur l'ensemble des carrières de 1984 à 2014 que nous analysons pour une série de travaux que nous menons sur différents aspects. Et pour le CNRS, je suis allé chercher des données sur dans le bilan social du CNRS, qui est un volume important et avec beaucoup de données, mais évidemment qui ne sont pas des données de recherche, donc ce sont des données qui établissent la santé sociale et l'état des carrières dans le milieu, dans le monde du CNRS, mais qui ne répond pas à mes besoins de recherche. Néanmoins, je peux y prélever quelques résultats extrêmement frustes et qui demanderaient évidemment à être développés considérablement si on avait accès aux données primaires, mais ça n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on montre ici? Je regarde d'abord le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs pour vous donner une idée de la taille respective des univers. Ça, je vous rappelle que c'est un genre pur, research only, et ça c'est le genre mixte, research and teaching. Ils sont 10 000 chercheurs au CNRS, 10 600, et 50 000 dans l'université en 2014. Maintenant, on regarde la proportion des différents grades chargés de recherche et directeurs de recherche. Ils sont 6 000 chargés de recherche et 4 500 directeurs de recherche. Dans l'université, ils sont 34 000 maîtres de conférences et 15 000 professeurs. Donc vous voyez déjà un écart élevé qui est ici donné en rapport, 57% de chargés de recherche au CNRS et 68% de maîtres de conférences à l'université. Maintenant, on va regarder, on se place, puisque je n'ai pas accès aux données sur les carrières. Si on les avait pour le CNRS, je vous présenterais les données comme on les a établies pour les universitaires, notamment à travers les analyses de séquences. Et je vous montrerai à quelle vitesse on peut passer d'un corps à l'autre. Mais je ne les ai pas. Et j'ai de bonnes raisons de penser qu'il est très difficile de les avoir. Mais je ne demande qu'à être démenti. Donc c'est un appel à la recherche, sur la recherche. Maintenant, je me situe à un point qui est qu'est-ce qui est arrivé aux gens après 50 ans ? Je vais vous expliquer pourquoi 50 ans est un bon repère qui a une bonne valeur prédictive pour considérer qu'après 50 ans, l'essentiel de ce qui peut se passer, s'est passé en termes de carrière professionnelle. Pas complètement, mais à peu près très majoritairement. Au CNRS, après, on a donc 38% des personnels qui ont plus de 50 ans. À l'université, ils sont 39%. Donc les données sont très proches en termes démographiques. C'est intéressant, ce point-là. Ça veut dire qu'on contrôle bien une des variables qui est la démographie pour faire nos analyses. Et maintenant, on va regarder le rapport ici, CRDR et MCFPR, maître de conf professeur, le rapport, comment il évolue après 50 ans par rapport à ce rapport-là, 57-43, 68-31. Ce ne sont pas des données longitudinales, mais ce sont des données de coupe transversale. Je ne fais pas mieux pour les raisons que j'ai indiquées. Le rapport chargé-directeur, il est là au CNRS après 50 ans, de 29% de chargé et 71% de directeur. Donc, il y a une transformation des carrières par l'énergie de production et les décisions d'allocation de postes au rang de directeur et donc de budget au rang de directeur, qui convertit un nombre très élevé de chargés de recherche. La plupart sont entrés au CNRS comme chargés de recherche. Il y a très peu d'entrées directes comme directeurs de recherche. Donc la plupart ont réussi à franchir cette étape cruciale statutairement. Nous avons des écarts de salaire qui ne sont pas gigantesques dans nos métiers en France, alors qu'ils le sont de loin davantage dans d'autres pays qui exercent un rapt considérable sur les talents scientifiques, comme la Suisse ou les États-Unis. Mais nous avons des différences statutaires. C'est ce que nous aimons faire, c'est pratiquer des différences statutaires. C'est notre manière à nous de gérer la stratification professionnelle. Et 29-71, qu'est-ce que nous avons dans l'université ? 49-51. C'est-à-dire que 49% sont maîtres de conférences, 51% sont professeurs. Il y a là, dans cet écart de 20% en faveur des directeurs de recherche, il y a là un indice absolument évident de l'avantage que procure une carrière dans un établissement autonome sur une fonction mono-spécialisée qui est recherche. Ils ont été embauchés pour faire de la recherche, ils font de la recherche. Le CNRS estime que près des trois quarts d'entre eux méritent d'obtenir leur passage à ce rang statutaire important qu'est la direction de recherche. Dans le monde universitaire, ils ont été embauchés pour faire de l'enseignement et de la recherche, et ils doivent gérer ce dualisme des tâches, et il se trouve que l'essentiel de la promotion est attaché à la fonction de recherche, mais ils ont la possibilité de faire de la recherche moitié moins en termes d'heures de travail que dans le monde du CNRS ou dans les établissements de recherche. Eh bien, le résultat, c'est une pénalisation en termes de carrière qui est absolument nette, qui est de 20 points d'écart en termes de chances de promotion. Et les professeurs passent majoritairement, comme vous le voyez, autour de 45 ans, mais il y a des cas précoces et des late bloomers. On peut passer encore jusqu'à 60 ans, voilà. Mais l'essentiel des passages est réalisé à 50 ans, on en a réalisé un très grand nombre. Et ici, vous avez la même distribution en fonction des disciplines, et vous voyez le même phénomène se produire. En droit, ce sont les facultés à agrégation du supérieur, donc on peut passer professeur très jeune. En droit, économie et gestion, ça reste un des privilèges de cette faculté, d'où la dissymétrie de la courbe, elle est fortement déplacée vers la gauche. En sciences, il y a une précocité par rapport aux lettres qui est connue. Les carrières sont plus comprimées dans la première partie et les chances de promotion sont plus élevées au jeune âge que dans les lettres qui recrutent et promeuvent plus tard. Elles ont fait entrer les gens plus tard et elles les promeuvent plus tard. Voilà la preuve.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre-Michel Menger, La production du savoir, carrière, disciplines et organisations, le 5 février 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, le cours complet, notamment la vidéo où le sociologue présente de nombreux graphiques et tableaux, ainsi que l'ensemble de ses cours. La leçon inaugurale de Pierre-Michel Menger a été publiée chez Fayard en 2014. Son livre « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain » paru en 2009, a été publié en Point Seuil en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Pierre-Michel Menger la production du savoir, suite. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.